les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le producteur de l'émission qui vient, la première d'une série de deux, fut, entre autres activités au cours de sa vie très remplie, gardien de la maison de Sacha Guitry à Paris. 4 jours et 4 nuits. Et pas à n'importe quel moment de l'histoire contemporaine. Sacha Guitry, épaté, parce que très épaté d'en être arrivé là, plaire à ses contemporains. Sacha Guitry, à qui une soirée littéraire de la Comédie-Française rendait hommage le 27 juin 1969 sur France Culture, une soirée produite par Alain Decaux.
D'après la troisième soirée littéraire de la Comédie-Française, l'ORTF vous propose « Si Sacha Guitry nous était compté » par Alain Decaux, entouré des comédiens français. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Mesdames, Messieurs, pourquoi suis-je ici devant vous pour vous parler ce soir de Sacha ? Il n'y a pas de rapport entre ma profession et le sujet qui a été choisi ce soir. Et si vous voulez, la seule justification de ma présence ici se résume en un mot. Et ce mot, c'est amitié. J'ai eu le privilège, ce fut un privilège, d'être l'ami intime de Sacha Guitry, et j'avais 20 ans, il en avait 60. Il voulut bien, lui, malgré ses 40 années qui nous séparaient, me donner son amitié, et ce souvenir, je puis le dire, m'est étrangement présent, et quand je pense à mes 20 ans, je me dis, j'ai eu le bonheur à 20 ans d'avoir Sacha Guitry pour ami. Les jeunes gens d'aujourd'hui, et je sais qu'ils aiment Sacha Guitry, et je sais qu'ils l'apprécient, qu'ils ont pour lui une très grande curiosité, mais je ne pense pas qu'ils puissent bien se figurer ce que fut pour 2 ou 3 générations à Paris Sacha Guitry. On peut dire que pendant 20, 25 ans, 30 ans, il ne s'est rien passé à Paris d'important sans Sacha Guitry. Auteur-acteur, il était en quelque sorte le Molière de M. Albert Lebrun. Et tout cela, nous qui étions jeunes, tout cela nous fascinait littéralement. Pourquoi, comment l'ai-je connu ? Eh bien, avec quelques amis aspirants comédiens, nous avions formé une petite troupe qui aspirait, elle aussi, à jouer la comédie. Et comme je n'étais pas comédien, on m'en avait nommé le directeur. Et nous avions choisi d'inscrire à notre premier programme une pièce de Sacha Guitry. Et cette pièce, elle s'appelle Jean III, ou l'irrésistible vocation du fils Mondoucet. Cette pièce, c'est une pièce des débuts de Sacha Guitry, et elle raconte l'histoire d'un fils de famille qui veut faire du théâtre et qui rencontre naturellement beaucoup d'opposition dans sa famille. Alors on m'a dit, écoute, tu es le directeur tout de même, il faut que tu ailles chez Sacha Guitry demander l'autorisation de jouer la pièce. Comprenez mon émoi. Je revois cette journée, il était 11h du matin, j'ai sonné, le cœur battant follement, à la porte de cet hôtel particulier qu'il avait au Champ de Mars, 18 avenue Élysée-Reclus. On m'a introduit dans un grand hall sur lequel s'ouvrait un très grand escalier qui tournait. Et une dame charmante à cheveux blancs, qui était Madame Choisel, la secrétaire de Sacha, est venue me voir, m'a dit « Mais monsieur, que désirez-vous » Je lui ai expliqué l'affaire. « Mais monsieur, m'a-t-elle dit, mais monsieur Guitry ne donne pas d'autorisation. » « Ah madame, je ne savais pas. » « Écoutez monsieur, devant mon désarroi, ajoute-t-elle, je vais demander Je vais poser la question à M. Guitry, mais la réponse, je la connais d'avance. Et alors, elle a monté ce grand escalier qui tournait, et moi, j'attendais en bas, assis, et mon cœur battait toujours. Et tout à coup, la porte s'est ouverte là-haut, et j'ai entendu une voix, et ça n'était pas la voix de Mme Choiseul. Et cette voix disait, « Monsieur, voulez-vous me faire le plaisir de monter, s'il vous plaît ?» Et j'ai monté, je suis monté, pardon. Vous voyez déjà l'émotion. Je fais déjà des fautes de français. J'ai dû en faire beaucoup ce matin-là. Je suis monté, et il était là avec sa robe de chambre, naturellement. Il la portait toujours, une grande partie de la journée. Il m'a reçu dans cette galerie où il avait installé son bureau et qui était un musée extraordinaire. Les tableaux, d'abord, il y en avait une collection fabuleuse, de Toulouse-Lautrec à Cézanne, de Cézanne à Renoir, et puis les souvenirs. Partout, des souvenirs des grands hommes, de Napoléon, d'Anatole France, de Flaubert, de Rodin, de tous les hommes qu'il admirait pêle-mêle, car il admirait tout, Sacha. Sacha, qu'on a tellement accusé de s'admirer lui-même, était probablement l'homme de l'histoire en France qui savait le plus admirer les autres. Et cela, pourquoi ne le sait-on pas? Il y avait là, sur la banquette de cuir rouge, un homme que j'ai bien connu plus tard, Henri Jadoux, le collaborateur intime de Sacha. Et Sacha m'a donné la comédie pour moi tout seul. Pendant une heure, il m'a montré tous ces objets et me parlant en même temps de mon projet, il disait vraiment, vous êtes des jeunes. Quel âge avez-vous? 19 ans, maître. Ah, comme c'est charmant. Et vers Jadoux, il se tournait de temps à autre et disait à Jadoux, alors Jadoux, c'est tentant. Et moi, j'aimais beaucoup que ce soit tentant pour M. Guitry. Enfin, il m'a fait asseoir et m'a dit, écoutez, j'aime beaucoup la jeunesse. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ce métier. Alors, c'est oui, à une condition. J'ai dit, maître, elle est acceptée. Je ferai moi-même la mise en scène. Imaginez qu'elle était acceptée 10 fois. Je suis parti, il m'avait dit, vous répéterez, vous saurez la pièce et je viendrai. Je ne pourrai évidemment pas assister à plusieurs répétitions, mais je viendrai vous voir répéter pour la dernière fois et vous indiquer alors un certain nombre de détails qui ont leur importance. Ceci se situait à la fin de l'occupation et quelques semaines plus tard, c'est nous qui avions d'autres occupations. Et puis, ce fut la libération. Et Sacha, vous le savez, fut le premier arrêté, chose étrange. J'habitais au Champ de Mars à cette époque, tout près, et je sus tout de suite cette arrestation, au moment même où un coup de téléphone m'apprenait que j'étais mobilisé. Avant d'aller prendre mon poste, c'était rue Lafayette, j'ai voulu sur mon vélo m'arrêter 18 avenue Élysée-Reclus et j'ai sonné. Madame Choiseul m'a accueilli, elle m'a reconnu. Elle m'a reconnu, a fondu en larmes. Je lui ai dit, madame, vraiment c'est vrai, on l'a arrêté. Elle m'a dit, on l'a arrêté. J'ai très peur pour toutes ces collections qu'il m'a laissées. Alors, dans ma folie de jeune homme, je lui ai dit, madame, je vais essayer de vous aider. Écrivez une lettre. Écrivez une lettre, je suis mobilisé, je vais voir des chefs. Ils ont le pouvoir et je vais faire quelque chose pour vous. Alors elle a dicté, elle a tapé une lettre demandant qu'on protège sa maison et j'ai emporté cette lettre rue Lafayette, là où était le quartier général. J'ai demandé à voir le plus grand des chefs. J'ai montré ma lettre. Il l'a lue, s'est tourné vers un autre. Ils ont dit, c'est vrai, il faut le faire. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es nommé. J'ai été nommé gardien de la maison de Sacha Guitry. C'est ainsi que pendant 4 jours et 4 nuits, j'ai gardé cette maison et ce souvenir ne s'éteindra jamais. Imaginez ce jeune garçon qui est là parmi ces merveilles. On m'avait attribué le lit de Madame Geneviève Guitry qui était partie. Et je me relevais la nuit pour aller regarder les merveilles. Il y avait des notes de lui sur le bureau, il y avait ses lunettes là dans la chambre, une veste, une cravate. Et je vivais là. Et le matin, on m'apportait un chocolat chaud, chose que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Voilà comment, car Sacha, sortant de prison, a dit, mais je veux voir ce jeune homme. Je suis allé le voir et il m'a dit « Cette maison, si elle est telle, c'est un peu grâce à vous. Considérez-vous maintenant ici comme chez vous. » Et je veux dire que j'ai usé de l'autorisation et voilà comment je suis devenu l'ami de Sacha Guitry. Voilà comment, avant même de l'avoir vu, j'avais dans cette maison compris qui il était, tel d'ailleurs qu'il s'est peint lui-même à cette époque dans son livre « Toute réflexion faite ». Et ce sera la première des citations de ce spectacle et ce m'est l'occasion de demander maintenant aux comédiens français de bien vouloir me rejoindre ici.
Quand je me suis vu à l'écran, j'ai tout de suite compris pourquoi j'étais antipathique à tant de gens. J'ai je ne sais quoi de péremptoire et je dirais même d'infaillible, propre à m'en rendre assez odieux. Mes traits sont empâtés, mon regard est imprécis, je n'ai rien qui soit apparemment spirituel. Et, à n'en pas douter, j'étais fait pour jouer les grands premiers rôles de drame. Je ne dis pas pour les jouer bien. Mais pour les jouer, certainement. Mais abordons le caractère. Aux yeux des gens, mes deux plus grands défauts sont l'égoïsme et la vanité. Suis-je égoïste ? Oui, comme tout le monde, mais pas plus. Peut-être moins que beaucoup d'autres. Mais cela doit se voir davantage chez un homme de mon espèce, un homme heureux. On trouve naturel qu'un homme malheureux ne s'occupe que de soi, tandis qu'un homme heureux passera pour un monstre s'il ne s'occupe pas exclusivement des autres. Les gens restant d'ailleurs convaincus qu'il n'est heureux que parce qu'il s'occupe exclusivement de lui, et rien n'y fait, rien n'y fera. A-t-il un joli geste? C'est pour se faire pardonner. Donne-t-il un peu d'argent? Il aurait pu en donner plus. En donne-t-il beaucoup? Hein? Faut-il qu'il en ait? Car je suis de ces hommes à qui l'on ne pardonne rien. On ne me pardonne même pas les malheurs qui me sont arrivés, car on est convaincu qu'aucun d'eux n'a pu m'atteindre, et qu'il n'y en a pas dont je n'ai tiré quelque profit. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mes maladies, mes fours, mes infortunes conjugales, les calomnies dont je suis abreuvé depuis plus de 30 ans, tout cela m'est reproché comme autant d'avantages. Du fait que mon travail ne s'en ressent jamais. Suis-je vaniteux? Moi, je prétends que non, car je me connais bien. Aucune de mes pièces ne me satisfait complètement. Et quant à la situation que j'occupe, n'ayant rien fait jamais pour y parvenir, elle me surprend bien plus qu'elle ne comble mes vœux. Or donc, vaniteux, non, mais épateur, ça je l'avoue. Épateur parce qu'au fond, très épaté d'en être arrivé là. Illusionniste né, vite, il m'est apparu qu'au mépris des coutumes et des conventions, j'avais pour mission de plaire à mes contemporains, sans cependant jamais déplaire à Jules Renard. Comblé par le destin, je n'ai pas eu d'autres soucis.
Sacha était très jeune quand ses parents avaient divorcé. Il avait un frère, Jean, et sa jeunesse a été surveillée par son grand-père maternel, René de Pongest. Sacha grandit aussi près de Lucien Guitry, et il grandit autour d'hommes exceptionnels, parce que Lucien Guitry a quatre amis, qu'il appelle naturellement les quatre mousquetaires, et il s'appelle Alfred Capu, il s'appelle Tristan Bernard, il s'appelle Jules Renard et Alphonse Allais. Et il faut imaginer ce petit garçon qui vient s'asseoir, car Lucien lui permettait, à lui et à son frère, de venir s'asseoir à cette table, évidemment, sans rien dire. Mais imaginez cet enfant qui grandit et qui voit ces hommes exceptionnels, qui avaient un esprit d'ailleurs féroce, impitoyable, pour les autres, mais pour eux également. Ils ne s'épargnaient pas, il n'y avait qu'un homme qu'on l'épargnait. C'était le délicieux Alphonse Allais, mais on aurait pu évidemment le plaisanter sur son goût pour la boisson, mais comme on savait qu'il en mourrait un jour, ce qui est arrivé,
On ne plaisantait pas sur ce goût pour la boisson. Sacha, en même temps, était en sixième. Il y est resté de nombreuses années. Il a été l'élève le plus renvoyé de France puisqu'il a été renvoyé de 17 lycées, collèges et institutions. Ce qui fait qu'un jour, il avait 16 ans, sa mère lui a dit « Sacha, j'ai peur pour toi que tu te maries en sixième. Et qui sait que tu meurs en sixième ?» Et Sacha ne répondait pas, il en avait peur lui aussi. Alors sa mère a ajouté, tu ne crois pas que... Ah si, a dit Sacha. Et c'est comme ça que ses études se sont terminées. C'était un enfant très précoce, extrêmement précoce pour les raisons que je vous disais. Et précoce aussi, vous l'allez voir, puisque vous allez entendre le récit de son premier amour.
J'avais 13 ans. Elle était ravissante. Que dis-je ravissante? C'était une des plus jolies femmes de Paris. Mais de cela, je ne me rendais pas compte. Je la trouvais jolie. Il se trouve qu'elle l'était extrêmement, ce n'était qu'une coïncidence. Elle était la fille d'un peintre célèbre et elle avait épousé le plus triomphant des auteurs. C'était un des amis intimes de mon père. Il est devenu le mien plus tard. À cette époque, j'étais le camarade de leur fils. Presque tous les dimanches, j'allais goûter chez eux. D'ailleurs, cette famille était l'image du bonheur et tous, ils étaient beaux. Elle avait un sourire adorable et des yeux caressants. Pouvais-je n'en être pas épris? Et vais-je me demander pourquoi je l'ai aimé? C'est le contraire qui eût été monstrueux, criminel, inquiétant. C'était mieux que mon droit, c'était mon devoir de l'aimer, puisque à 13 ans, on ne peut pas savoir ce que c'est que d'aimer. J'en rêvais. Le lui dire, plutôt la mort. Alors, le lui prouver. Faire des économies pendant toute la semaine et commettre une folie le dimanche suivant. Ces économies, je les ai faites. Et cette folie, je l'ai commise. 8 francs. Un énorme bouquet de violettes. Il était magnifique. C'était le plus beau bouquet de violettes que l'on ait jamais vu. Il me fallait mes 2 mains pour le tenir. Mon plan, arriver chez elle à 2 heures et demander à la voir au lieu d'aller directement à la nurserie. La chose n'alla pas sans un peu de tirage. Elle était occupée. J'insistais. La femme de chambre me conduisit à son boudoir. Elle se coiffait pour sortir. J'étais entré, le cœur battant. « Bonjour, mon petit, pourquoi veux-tu me voir ?» Elle ne s'était pas encore retournée. Elle n'avait pas encore vu le bouquet. Elle ne pouvait pas comprendre. « Pour ça, madame ?» Et je lui tendis mes 8 francs de violette. « Oh, oh, les belles fleurs » fit-elle. Il me sembla que la partie était gagnée. Je m'étais approché d'elle en tremblant. Elle prit entre ses mains mon bouquet comme on prend une tête d'enfant et elle le porta à son joli visage comme pour l'embrasser. Et elle sent bon. Puis elle ajouta en me congédiant. Tu remercieras bien ton papa de ma part.
Lucien Guitry était, vous le savez, non seulement l'un des plus grands comédiens de son temps, il avait créé Flambeau, Chantecler et tant de rôles du répertoire, mais c'était un homme d'esprit, et Sacha avait un peu le même esprit que son père. Il lui ressemblait beaucoup d'ailleurs, et physiquement, quand on voit les photographies des deux hommes, on voit à quel point la ressemblance est troublante. Ils se ressemblaient aussi par la voix, surtout quand Sacha, naturellement, avait vieilli. Et un jour, ils ont d'ailleurs enregistré une fable de La Fontaine. Ils ont fait un disque, et chacun d'eux disait un vers. Et il était impossible à la fin du disque de savoir si c'était le père ou le fils qui avait dit tel ou tel vers, hélas, ce disque est perdu. Lucien avait fait tailler à Sacha tous ses costumes de scène, évidemment à l'échelle réduite. Comment voulez-vous qu'un enfant qui vit comme ça, qui grandit comme ça, ne pense pas à consacrer sa vie au théâtre? C'est le contraire qui nous étonnerait. Et alors ses débuts? Ah oui, parce que le jour est venu où tout de même, il s'est résolu à franchir la rampe et à devenir comédien. Il ne pensait pas du tout à cette époque à être auteur. Et il a résolu sous un pseudonyme, le pseudonyme de Lorsay. Il ne voulait pas faire de tort à son père, qui était un bon fils. Et il s'est résolu à faire ses débuts. Et ses débuts, ils se sont faits au casino de Saint-Valery-en-Caux. Il faut maintenant que vous l'écoutiez vous raconter ses débuts.
Donc, en juin 1905, je débute au casino de Saint-Valery-en-Caux. C'est dans le Député de Bombignac, vieille comédie excellente d'Alexandre Bisson, que j'ai donné la mesure de mes capacités. Alexandre Bisson était bègue. Il eut un jour une pièce à un directeur de théâtre qui ignorait sa petite infirmité. À la fin du premier acte, le directeur énervé lui déclara « Bah oui, oui, la pièce est bonne, mais alors tous ces personnages qui bégaient, c'est exaspérant. » Je jouais dans Bombignac le rôle du vicomte de Morard. Je devais entrer au milieu du premier acte, annoncé par un valet de pied et accueilli par un « Ah !» très flatteur des personnages qui se trouvaient en scène. Puis, les ayant salués, je devais dire textuellement ceci. « Vraiment, madame, je ne sais comment vous remercier d'un accueil si cordial. Je viens passer 3 semaines à Poitiers chez un vieil oncle à moi, et si ma visite est un peu matinale, c'est que j'avais grand hâte de revoir Raymond et de lui serrer la main. » Terrible, interminable réplique d'entrée. Il n'y avait qu'un auteur bègue pour avoir l'idée de donner à dire aux autres une phrase pareille. D'ailleurs, je ne l'ai pas dite. Je m'étais collé, Dieu sait pourquoi, des moustaches et une petite barbiche. J'avais un pantalon de toile blanche qui avait excessivement rétréci au blanchissage. J'avais égaré un de mes gants et au moment d'entrer en scène, m'étant aperçu que mes moustaches se décollaient, je les avais vivement retirées, oubliant la barbiche. J'avais l'air d'un garçon de café américain. Monsieur le vicomte de Morard. Et c'est dans cette tenue que j'entrais. Et au lieu du « Ah, très flatteur » prévu sur la brochure, c'est par un gloussement que je fus accueilli. Un gloussement qui trouva son écho dans la salle. Alors, je me suis troublé. Je me suis tellement troublé qu'au lieu de dire « Vraiment, mesdames », j'ai dit « Vraiment, merdaille !» Courteline, Fédot, Tristan Bérard, pardon, mes maîtres, vous n'avez jamais fait rire autant que j'ai fait rire mes camarades ce soir. Quant à la fameuse phrase « Je ne sais comment vous remercier de l'accueil si cordial. » Je ne l'ai pas bredouillé, je ne l'ai pas bafouillé, mais... Non, non, j'en ai fait une bouillie. Une véritable bouillie. J'avais l'air de parler une langue inconnue, mais nègre en tout cas. Alors dans la salle, il se passa ce qui devait logiquement se passer, ce qui se passe toujours dans ces cas-là. Au rire franc qui avait empoigné le public, succéda tout à coup un emboîtage en règle. Je me sentais désemparé, perdu, navré. À l'entracte, Edmond C., André Picard et d'autres amis vinrent me voir dans ma loge et me dire combien j'étais coupable de me laisser ainsi deviner par le trac, combien j'étais stupide de prendre à ce point les choses au sérieux. Alors leur gentillesse, leurs sages conseils me redonnèrent un peu de courage. Que se passa-t-il au deuxième acte? Rien sans doute, puisque j'en ai pas gardé le souvenir. Mais au troisième acte, le malheur dépassa mes craintes. J'étais en scène, assis, je devais me lever, courir à la fenêtre, ouvrir cette fenêtre, me pencher au dehors, puis, m'étant retourné, je devais m'écrier « Une voiture vient de s'arrêter devant le perron du château. » Depuis le début de l'acte, j'avais agréablement surpris le public en donnant plusieurs répliques sans bafouiller. Moi-même, j'avais repris confiance. Je constatais dans tous mes gestes une aisance imprévue qui me faisait présager une fin d'acte réparatrice. Ah... J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver. Quand ce fut pour moi le moment d'aller à la fenêtre, de l'ouvrir, de me pencher au dehors, j'y allais résolument, hélas. Je ne savais pas que le décor était appliqué au mur et je donnais violemment de la tête contre ce mur. Renvoyé en arrière, je me pris le pied dans le tapis et m'étalai de tout mon monde. Et alors, malgré ou peut-être à cause du mal que je venais de me faire, j'ai voulu être le premier à en rire. Et j'en ai ri, comme un fou. Et aucune puissance humaine n'aurait pu m'empêcher de prendre ainsi la chose. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, mais j'étais bien sûr que je ne deviendrais jamais comédien. Et j'en éprouvais presque une sorte de joie rageuse. Je me sentais délivré d'un immense souci. Je n'allais plus avoir cette crainte constante de ternir l'éclat du nom que je portais. Le lendemain, j'étais résilié.
Eh bien, non, la résolution qu'avait prise Sacha devait rester sans lendemain, car Lucien Guitry allait tout de même, sans doute n'avait-il pas eu d'écho de la manifestation de Saint-Valery-en-Caux, Lucien Guitry allait tout de même l'engager dans son théâtre, qui était à l'époque la Renaissance, pour jouer le rôle de Paris dans La Bonne Hélène de Jules Lemaître. Mon Dieu, là, ça s'est pas trop mal passé, c'était un très petit rôle. Mais un dimanche, entre la matinée et la soirée, Sacha s'était attardé à lire La Conversion d'Alceste de Courteline qui venait de paraître, et il est arrivé en retard au théâtre, en retard de 10 minutes. Il était resté habillé entre la matinée et la soirée, mais justement, étant en retard, il avait omis d'aller prendre dans sa loge sa perruque et il avait pensé qu'il pourrait entrer en scène avec seulement son casque. Malheureusement, le casque était évidemment trop grand sans perruque et il est entré avec un casque qui arrivait jusque-là. C'était une fatalité, les entrées de Sacha, c'était toujours un drame. Alors, quand il est sorti de scène, il a trouvé au tableau de service un petit mot écrit par Lucien Guitry lui-même, 100 francs d'amende à M. Lorcet pour être arrivé en retard et avoir joué sans perruque dans le but de faire rire ses camarades. C'était pas vrai, c'était injuste. Et Sacha, justement, ressentait cruellement l'injustice, d'autant plus qu'il gagnait 10 francs par jour. 100 francs, c'était énorme. Alors il est allé voir Lucien Guitry, a plaidé sa cause, il a trouvé son père furieux, qui a fini par lui dire, d'ailleurs, c'est à prendre ou à laisser. Eh bien, je laisse, dit Sacha. Il a quitté le théâtre, il a quitté Paris, il a pris le train pour Toulon, et il n'a pas revu son père pendant 13 ans. Il est allé à Toulon voir Alphonse Allais, et là, il a acheté des feuilles de papier à dessin, car Sacha avait aussi un très joli talent de dessinateur. Il a voulu chercher un sujet de dessin. Et c'est tout autre chose qui lui est venu à l'esprit. Tout à coup, il s'est souvenu d'une scène qu'il avait entendue entre son père et une dame qui partageait sa vie. Et cette scène était très violente, très amère, très forte. Et Sacha s'est dit, mais c'est une magnifique scène, je devrais l'écrire. Il l'a écrite, et l'écrivant, il a fait ce que doit faire un auteur dramatique, il l'a transposé. Et cette scène qui était cruelle est devenue comique. Et l'ayant écrite, il l'a lu à Edmond C, qui était là, un vieil ami, un critique. Et Edmond C lui a dit, bravo Sacha, il faut faire la pièce maintenant, ça n'est qu'une scène. Il a fait la pièce et ce fut Nono. Nono, la première pièce de Sacha Guitry et en même temps son premier triomphe. Il n'avait même pas 25 ans. Et là, vraiment, ce fut pour la critique une révélation. Et Sacha a pu dire, j'avais un nom, je me suis fait un prénom. Car désormais, les pièces allaient suivre, les pièces de jeunesse d'abord, des pièces qui, dans le théâtre de ce moment-là, apportaient un son extraordinairement neuf. Souvenez-vous, qui triomphe à cette époque? Eh bien, c'est Paul Hervieux, c'est Brieux, c'est Lavedan. J'ai le plus grand respect pour ses maîtres, il y a même, je crois, quelques-uns de leurs bustes dans cette maison. Mais enfin, c'est illisible, vous le reconnaîtrez bien. Eh bien, quand on relit les pièces de cette époque, et je l'ai fait ces 3 derniers jours avant de venir m'entretenir avec vous, eh bien, on est frappé, littéralement stupéfait, par la fraîcheur extraordinaire de ces pages, de ce dialogue qui coule, qui est jeune, bondissant. On a l'impression qu'il est écrit hier. Et en même temps, il y a dans ces pièces toute une cocasserie qui est extraordinairement moderne, qui n'a rien à voir avec le théâtre installé de cette époque. Il y a une fantaisie débridée. Prenez une petite pièce que j'ai relue aussi, qui s'appelle, je ne sais pas comment on peut la prononcer, ça s'écrit KWTZ. Alors, le quits, le quats, tout ce que vous voulez, une pièce en un acte, puis le rideau se lève, le héros est là, derrière une table, et ce héros, il écrit. Il regarde le public. Il dit, je lègue 1 million de francs à la Sainte Église catholique. Il écrit. Je lègue 1 million de francs au temple israélite de la rue de Provence. Il écrit. Je lègue 1 million de francs au consistoire protestant. Alors il regarde encore le public et il dit, où vais-je trouver tout cet argent-là? Eh bien oui, c'est vraiment une cocasserie très moderne. On jouerait ça actuellement dans le théâtre. On pense à Obaldia, par exemple. Tout ça est très neuf. Très, très moderne. Et après, évidemment, viendront toute la suite, toutes les pièces que je ne veux pas énumérer de nouveau. Viendra à l'époque triomphale. Et c'est dans une représentation de deux bureaux que Sacha retrouvera son père, Lucien Guitry. Et à 50 ans, il fait le point. À 50 ans, il prend la plume, se regarde dans une glace et il écrit, voilà, son portrait par lui-même à 50 ans.
Rome. Je termine aujourd'hui ma tournée d'Italie. Nous sommes le 21 février 1934. Il est 2h du matin. Et j'entre dans ma 50e année. Un an de plus, un an de moins. Quand je pense qu'un de mes amis m'a conseillé un jour de jouer au golf, non seulement pour ma santé, mais parce que, m'a-t-il dit, ça fait toujours passer une heure. Faire passer les heures, au lieu de les retenir, elles passent déjà si vite. Et toutes celles qu'on nous fait perdre et toutes celles que nous perdons. Si j'ai dormi 8 heures par nuit, depuis le jour de ma naissance, à 60 ans, j'aurais dormi pendant 20 ans, le tiers en somme de ma vie. Quel temps perdu. Bon, donc, 50 ans dans un an. Je n'en reviens pas. Dans le fond, c'est superbe, c'est une espèce de preuve. Ça, je ne sais pas de quoi, par exemple. Oui, 50 ans, je trouve cela très beau pour un homme de mon âge. Et dire que lorsque j'avais 20 ans, je considérais qu'un homme de 50 ans était vieux. Était-ce bête? Oui, c'était bête. Mais ce n'était que bête. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que cela continue sans doute. Et qu'aujourd'hui, les jeunes gens considèrent peut-être qu'un homme de 50 ans est vieux. Ils verront ça. Je viens d'y penser pendant 25 minutes. Je me suis promené de long en large en me questionnant. Je voulais à tout prix des réponses honnêtes. Et je me suis regardé impitoyablement dans une glace. Je les parais. Pourquoi ne les paraîtrais-je pas? Est-ce que les autres ne paraissent pas leur âge? Alors, d'ailleurs, il est logique, il est normal qu'on paraisse son âge, c'est de la franchise. Je me suis laissé tomber dans un fauteuil et je me suis fait à cette idée qu'être vieux, ça devait être très bien. Seulement, j'imagine que pour y arriver, cela doit être assez pénible. Oui, la jeunesse, ça dure 15 ans, de 20 à 35. L'âge mûr également, de 35 à 50. Mais ce qui dure le plus longtemps, ce qui peut durer le plus longtemps, c'est la vieillesse. Ça peut durer 50 années, donc c'est un but. Eh bien, si c'est un but, il vaut mieux l'atteindre aussi vite que possible. Et c'est pourquoi les gens qui se défendent, comme ils disent, semblent souvent si ridicules. Teintures et moumoutes, artifices divers, mensonges maladroits dont celui qui les fait seul est toujours la dupe. Il faut s'en méfier, car je pense qu'ils ont sur le moral, aussi bien que sur le physique, une influence pernicieuse. Et cela doit être assurément désolant de vieillir pendant que l'on vieillit. Ça doit s'aggraver tous les jours, comme un mal incurable. On doit chaque matin se sentir un peu moins jeune que la veille. Perdre des cheveux blancs, mon Dieu, ce n'est pas grave. En somme, puisqu'on avait été contrarié de les voir blanchir. Mais perdre des cheveux blonds ou bruns, des cheveux qui n'ont même pas terminé leur carrière de cheveux, c'est odieux et c'est injuste. Car c'est une partie de soi-même qui meurt dans la force de l'âge. Une ruine. C'est magnifique. Et puis c'est immortel. Mais je n'aurais pas voulu voir s'effriter le forum. Il faudrait pouvoir passer de la maturité à la vieillesse en 5 minutes. Mais cela se ferait comme on fait une opération. C'est à cela qu'on devrait employer la chirurgie esthétique. Je crois qu'elle rendrait ainsi de bien plus importants services. On vous endormirait jeune encore, enfin, c'est-à-dire plus très jeune, et on se réveillerait couvert de cheveux blancs, cravate de commandeur au cou, respecté, respectable, et surtout délivré d'un souci déplorable. Et on n'a pas droit à tous les âges, ce serait trop beau. On est un homme de 20 ans, ou de 35, ou de 50, ou de 60. Moi, j'ai l'impression que je suis un homme de 50 ans. Le moment est donc venu de faire mon portrait. Et puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, qu'on m'autorise à le tracer en quelques traits. D'ailleurs, il m'en souvient, c'était jadis mon rêve d'être quinquagénaire. Me voilà satisfait, je pense. Oui, pour un an.
Et maintenant, c'est, si vous le voulez bien, à la rencontre d'un Sacha peu connu que je vais me permettre de vous convier. Un poète, d'abord. Sacha Guitry a écrit certaines de ses pièces en vers, des vers libres, bondissant comme sa fantaisie. De Bureau, Franz Sals, un soir quand on est seul. Mais hors du théâtre, il a aussi écrit de charmants, d'adorables petits poèmes qu'on ne connaît pas, et je crois que vous jugerez comme moi que c'est un grand tort. Alors, nos comédiens vont interpréter quelques-uns de ces poèmes et ensuite vous diront des réflexions, des mots, des pensées, des maximes.
Nous nous sommes connus chez M. Le Courtois, professeur de dessin, membre de l'Institut. Et dès le premier jour, nous nous sommes dit « tu ». C'est l'habitude, on a 20 ans, on se tutoie. À moins d'être une petite oie, on ne saurait s'en étonner, car être né la même année, n'est-ce pas être un peu né sous le même toit ? On est là, quelques bonnes filles, avec un tas de bons garçons, très en famille et sans façon. Bonjour mon vieux, comment vas-tu ? Fort bien, et toi ? Prête-moi ton crayon pointu, veux-tu ma gomme ? Elle est à toi, et ça n'a rien de discours toi. Il doit en être ainsi d'ailleurs dans tous les cours. Donc, dès le premier jour, nous nous sommes dit tu. Puis il a commencé à me faire la cour. C'est un être charmant. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus parce que ça me gêne. Grands yeux câlins, cheveux d'ébène, donc bref, charmant. Et qui m'a plu. Ah, oh, plu, mais plu. Enfin, quoi qu'il m'a plu. Or, hier au soir, il avait plu. Mais plu. Oh, plu. Enfin, quoi, il avait plu. Et nous nous trouvions seuls dans l'atelier désert. Tant d'eau vous a désert, en somme, deux rideaux, de sorte que l'on est combien plus seul encore et libre de s'aimer lorsque ce quatrième côté du décor est fermé. Ainsi, nous étions seuls dans l'atelier désert, silencieux, mais éloquents. Car Jean-Louis n'est pas disert, chez les peintres, c'est très fréquent. Il était près de moi, mon trouble était extrême, et je ne faisais rien pour cacher mon émoi. On était tous les deux, comme on est, quand on s'aime, quoi comme ébloui, se tenant quoi, avec des yeux qui disent « oui ». C'est alors qu'il m'a dit une chose inouïe, et qui m'a tout à fait conquise, je l'avoue. Il m'a dit « Tu permets désormais que je te dise, vous ?»
Voici l'histoire d'une pendule. Oh, combien dérisoire et d'ailleurs ridicule, en bronze, avec du marbre noir, et que finalement j'avais prise en horreur. C'était comme quelqu'un de bête et qui s'ennuie. Elle sonnait avec lenteur, quelquefois 12 coups quand il était 8 heures, et 2 coups seulement quand il était minuit. Les autres font tic-tac, tic-tac. Elle faisait tactique, tactique. Était-ce une tactique ? Avait-elle des tics ou parfois des attaques ? Attaque ou non, tic ou pas tic, elle était toc et peu pratique et battait la burlock, en somme, ma patraque. Or, voici son histoire, histoire sans issue. Cette pendule avec Napoléon dessus, comme disait le bon Copé, j'en avais écopé à la mort autrefois de ma cousine Irène. Or, un beau jour, mon cher Henri, tu l'as reçu, t'en souviens-tu, pour tes étrennes ? Eh bien, qu'en as-tu fait toi-même au bout de l'an ? Tu l'as donné à Ferdinand. Ne dis pas non, tais-toi, je sais tout maintenant. Or, Ferdinand lui-même, à la fin de l'année, il l'a donné. Il l'a donné à Noémie, qu'il a donné à des amis. Or, ses amis, un an plus tard, ils l'ont donné à la marquise de Saint-Marc pour son anniversaire avec leurs vœux sincères. La marquise, à son tour, en eut bien vite assez et n'a pas été longue à s'en débarrasser au profit d'un cousin du frère de ma femme. Tu la vois qui revient, cette pendule infâme. Or, ce cousin n'a rien trouvé de mieux à faire que de l'offrir à mon beau-frère pour la nouvelle année. Or, mon beau-frère Émile, au bout de 12 mois, à qui l'a-t-il donné ? Je te le donne en 1000. À moi. Oui, ce matin, je l'ai reçu, elle aura fait le tour complet, son voyage est terminé, elle est là, sur ma cheminée. Oui, ce matin, je l'ai reçu pour la nouvelle année, cette pendule avec Napoléon dessus. La voilà de nouveau chez moi, la voilà là, pour 12 mois, l'horrible pendule d'Irène. Et je dis bien pour 12 mois, car l'an prochain, je te préviens que tu l'auras pour tes étrennes.
Pour aller, supposons, de Marseille à Calais le plus directement possible en traversant le Charolais par Grignan, Tonnerre et Nemours, or donc pour parcourir de 1000 à 1200 peut-être kilomètres, une bonne nouvelle, à mon avis, doit mettre environ 18 jours. C'est qu'elle va cas un cas, de porte en porte. Les gens, pour l'accueillir, loin de se mettre en frais, soupçonnent volontiers celui qui la colporte. On la discute, on l'examine de plus près, on en a vu déjà tellement de la sorte. Elle surprend d'abord, puis bientôt elle effraie, on s'en méfie, on n'en veut pas qu'on la remporte. Elle est trop belle en vérité pour être vraie. Mais s'il s'agit d'une nouvelle, hélas, mauvaise, quittant un soir Marseille et montant vers Calais, elle pourra passer par Sète et par Alès, par l'Hérault, l'Aveyron, le Lot et la Corrèze. En dépit du détour, elle ne mettra pas beaucoup plus de 8 jours pour atteindre Calais. C'est que de seuil en seuil, elle ne traîne pas, on lui fait bon accueil, on se la dit tout bas. Pour celle-là, point d'examen, chacun l'avale toute crue. Rien ne l'arrête en son chemin et d'où qu'elle vienne, elle est crue. C'est le méchant côté de la nature humaine. On aime à propager les nouvelles fâcheuses. Et contre 18 jours à la nouvelle heureuse, à la mauvaise, il suffira d'une semaine. Et celle-ci, pourtant, peut battre son record. Elle peut parvenir de Marseille à Calais beaucoup plus vite encore. En 1 jour seulement, brûlant tous les relais, passant par la Charente et par le Beaujolais, par le Doubs, par le Cher et par la Côte d'Or, elle peut parvenir de Marseille à Calais, traversant le Vexin, revenant sur ses pas, visitant la Bretagne, le Maine et la Beauce. En 1 jour seulement, je ne me dédie pas, pour peu qu'étant mauvaise, en plus, elle soit fausse.
Imagine-toi un poète français qui n'est pas lu Villon et qui est du génie. Je n'en vois qu'un, et c'est Villon.
Privilège du génie. Lorsque l'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui.
Rodin, je croyais que l'on canonisait ceux qui ont fait des miracles.
Je n'aurais pas épousé la fille de Molière ou de Fragonard, car je ne me serais pas reconnu le droit de faire des petits-fils à des hommes pareils.
Elle bâillait devant moi. Je lui ai dit bye-bye.
Elle était juchée sur 10 cm de talon. Les épaules de son manteau étaient rembourrées à la mode. Elle venait de faire sa permanente et ses racines. Ses ongles étaient carminés sans de bœuf. Ses yeux bleus s'ornaient d'une frange de faux cils. On voyait que son fond de teint était invisible. Le rouge qu'elle avait aux lèvres en rectifiait les courbes. Et avouez qu'il faut être aussi fou qu'un homme amoureux pour dire à cette femme « Dis-moi la vérité, c'est tout ce que je te demande. »
Pour qu'une plaisanterie humoristique ait, si j'ose dire, son plein rendement, il convient que 3 personnes soient en présence.
Celle qui la profère.
Celle qui la comprend.
Et celle à qui elle échappe.
Le plaisir de celle qui la goûte étant décuplé par l'incompréhension de la tierce personne.
Être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent précisément.
Être à moitié, quoi que ce soit d'ailleurs, est inutile.
Car c'est toujours l'autre moitié qui fait défaut.
Il faut avoir vu Sacha Guitry sur un plateau de cinéma. C'était un spectacle admirable et insolite. Il était assis, il se levait rarement, et il appelait un machiniste. « Monsieur, je vous prie, ne trouvez-vous pas que cette chaise, placée où elle est, dépare quelque peu l'harmonie de ce très beau salon Louis XV ?» Le machiniste attendait la suite. « Alors, monsieur, si c'est votre opinion, veuillez, je vous prie, déplacer vers la gauche cette chaise. Encore un peu, monsieur, merci. Veuillez recevoir l'expression de ma gratitude. » Et pour recevoir l'expression de la gratitude de Sacha, je crois que tous les machinistes de tous les studios de France se seraient jetés au feu. À la fin de sa vie, il était déjà très malade et il ne se déplaçait que porté, il ne pouvait plus marcher. Et ceux qui ont tourné son film Napoléon, à Grasse ou à Antibes, ont pu voir ce spectacle unique. Un fauteuil Louis XV, justement, sous lequel on avait placé 2 gros madriers. Et Sacha, assis sur ce fauteuil Louis XV, porté par 4 soldats du contingent, en uniforme. Et Sacha, le chef recouvert d'un grand panama, ayant revêtu une chemise à fleurs, et oui, Sacha, précurseur d'Antoine, le cou cerné par un grand collier d'ambre, et porté comme en triomphe vers le lieu du tournage, eh bien, voyez-vous, le spectacle n'étonnait personne, on le trouvait presque naturel. Et je crois que c'est un genre de spectacle que nous ne reverrons jamais. Le premier de ces films, vous le savez, fut le roman d'Attrisher. Je voudrais justement que vous entendiez les premières pages de ce roman d'un tricheur. Certes, certains d'entre vous les connaissent, ces pages, mais elles figurent d'ores et déjà dans toutes les anthologies de l'humour français. Et je crois vraiment vous faire plaisir, et je l'avoue, me faire plaisir à moi aussi, en vous proposant d'écouter le début du roman d'un tricheur.
Je suis né le 28 avril 1882 à Tortizambert, petit village bien joli du Calvados, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Troarn, en quittant Livaro. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon an mal an 5000 francs de bénéfices. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu 2 enfants. Elle eut avec mon père 1 fils et 4 filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père. Ils étaient quittes, si j'ose dire. Et nous avions en outre un oncle sourd-muet. Nous étions donc 12 à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. Seul, car j'avais volé 8 sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes. Et mon père en courroux s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. Ces végétaux mortels, c'était le sourd-muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait 11 cadavres à la maison. Qui n'a pas vu 11 cadavres à la fois ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. Parlerai-je de mon chagrin? Disons plutôt la vérité. Je n'avais que 12 ans et l'on conviendra que c'était là un malheur excessif pour mon âge. Oui, j'étais véritablement dépassé par cette catastrophe. Et n'ayant pas assez d'expérience pour en apprécier l'horreur, je m'en sentais, pour ainsi dire, indigne. On peut pleurer sa mère, ou son père, ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer 11 personnes? On ne sait plus où donner de la peine. Je n'ose pas parler de l'embarras du choix, c'est pourtant un peu cela qui se passait. Ma douleur, sollicitée à droite, sollicitée à gauche, avait des sujets de distraction trop nombreux. Le docteur Lavignac, appelé dans le courant de l'après-midi, ne cessa de prodiguer pendant des heures et des heures ses soins éclairés, mais hélas, inutiles, ma famille s'éteignait inexorablement. Monsieur le curé, qui déjeunait ce jour-là chez le marquis de Beauvoir, est arrivé à bicyclette vers 4 heures. On allait avoir bien besoin de lui. Dès 5 heures du soir, tout le village était chez nous. Le père Rousseau, paralysé depuis 20 ans, s'était fait porter jusque-là. Et l'aveugle répétait en poussant les autres, « Laissez-moi voir, laissez-moi voir !» J'avais été renvoyé de chambre en chambre par les voisines aussitôt accourues et, ne sachant plus où me fourrer, je m'étais craintivement dissimulé sous un comptoir dans la boutique. De là, j'entendais tout ce qui se disait, tout ce qui se murmurait. Les premiers décès avaient été annoncés non sans une certaine componction, ainsi qu'il est de règle. Mais dès la 4e mort, les annonces devinrent brèves et bientôt laconiques. Encore un. Et tous ces villageois résignés et fourbus reprenaient de la vie devant toutes ces morts. Il leur semblait sans doute que chacun allait avoir un peu plus d'air à respirer dorénavant. Et je percevais des dialogues inouïs. Et la grand-mère, pas encore. Mais c'est l'affaire de 20 minutes. Il en reste combien? Plus que 4. L'oncle assassin, le sourd-muet, mourut le dernier dans d'horribles souffrances. « Quel est celui qui crie comme ça ?»« C'est le muet, » répondait-on. Lorsqu'à 7 heures, tout fut fini, je suis sorti de ma cachette et je me suis trouvé nez à nez avec le docteur, éreinté, qui s'épongeait le front. Il me vit, me regarda, me reconnut, n'en crut pas ses yeux et me dit « Eh ben et toi ?» Et il y avait dans sa voix une surprise immense, avec un rien de blâme. D'ailleurs, il ajouta « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et ce « qu'est-ce que tu fais là ?» ne voulait pas dire « qu'est-ce que tu fais là ?» sous le comptoir. Non, non, non. Il signifiait bien « qu'est-ce que tu fais là ?» sur la terre. En effet, de quel droit n'étais-je pas mort comme tout le monde ? Il continua « tu n'as pas mal ?» Non, pas du tout. Mais comment ça se fait-il ? Et maintenant, il me regardait comme si j'étais un phénomène. Ou bien le diable, ce garçon de 12 ans qui absorbait impunément des champignons vénéneux, qui survivait à tous les siens, ça devenait très intéressant pour lui, quel champ d'expérience. Et comme il m'a semblé qu'il se voyait déjà penché sur mes viscères, j'avouais la vérité, j'en ai pas mangé. Pourquoi ? Et ce pourquoi parti très vite était extraordinaire, des formations professionnelles, je veux bien, mais je jure qu'il l'a dit sur un ton de reproche. Et comme il répétait « pourquoi, pourquoi ?», j'ai préféré tout dire, j'ai raconté mon crime et j'ai dit quel avait été mon châtiment. Alors, dans une esquisse de sourire, il eut un clignement d'œil qui semblait dire « toi, pas bête ». L'histoire fit rapidement le tour du village et je laisse à penser quels commentaires elle souleva. Le jour de l'enterrement, derrière ces 11 cercueils que je suivais, la tête basse et les yeux secs. Je me demandais si le fait d'avoir été miraculeusement épargné ne me donnait pas un peu l'air d'avoir assassiné tout ce monde. Cependant que dans mon dos, on chuchotait « Savez-vous pourquoi le petit n'est pas mort ? Parce qu'il a volé. » Oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que 40 ans d'expérience n'ont pas modifié.
Je voudrais que, de nouveau, vous reveniez avec ce moraliste, avec ce poète, et que vous découvriez maintenant un autre aspect très peu connu de son talent, c'est l'auteur de comédies musicales. Et oui, nous parlions de novateur. Eh bien, il n'y a pas de soirée à Paris en ce moment, depuis un an ou deux, sans qu'on ne parle de la comédie musicale. On dit, ben oui, c'est un genre qui triomphe à Broadway, à Londres, à Paris, c'est pas possible. Mais on oublie que vers les années 20, M. Sacha Guitry, avec Messager et avec Oscar Strauss, conçut des comédies musicales qui furent parmi les plus réussies qu'on ait entendues jamais. Et je voudrais maintenant qu'ensemble, justement, nous retrouvions la voix de Sacha et la voix de Mme Yvonne Printemps pour cette adorable comédie musicale qui s'appelle Mariette. Je résume la situation, il s'agit du prince Louis-Napoléon, bien entendu joué par Sacha, et celui-ci a remarqué au théâtre une jeune chanteuse qui lui plaît infiniment. Il vient d'arriver en France, c'est en 1848, il n'est pas encore connu, et il entre dans la loge de cette jeune personne et il aperçoit un buste de Napoléon sur la cheminée. La jeune chanteuse est bonapartiste, quelle chance. Mais Louis-Napoléon, qui voudrait bien que cette jeune personne vienne dîner avec lui, l'invite, elle ne veut pas. Et il lui demande, est-ce que vous savez qui je suis ? Comme elle a distingué tout de même quelque chose dans son comportement. Elle lui répond, oui, je crois bien que vous êtes le duc de Nemours. Louis-Napoléon répond, eh bien non, au contraire. Alors, la scène commence, que vous allez entendre, où il essaye toujours qu'elle accepte son invitation, et à un moment, vous l'entendrez, le moment où elle change d'avis est un moment très précis, il va sortir de sa poche son portrait, et sur ce portrait, il est écrit en bas,
le prince Louis-Napoléon.
Voulez-vous être gentille ?
Oui.
Très gentille ?
Oui.
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 Eh bien, fredonnez-moi la valse qu'on joue là-haut. Ah, on la joue, la valse.
Oui, oui, on
vous
la
ne
joue.
Me direz pas qu'on ne la joue pas.
Non, non, non,
pas
on la joue.
Eh bien,
joue.
Pour moi tout seul, un instant, fredonnez-la.
Ah, mais ça, je le voudrais bien.
Eh bien, faites-le, alors.
Mais c'est qu'il n'y a pas de parole sur la valse.
Pas de parole.
Non, il n'y en a pas.
C'est justement ce qui lui manque, improviser quelque chose.
Que
voilà
j'improvise
tout.
Quelque chose.
Essayez, en tout
oh,
cas,
je
essayez. Si ce n'est pas réussi, vous ne le ferez plus jamais. Voilà tout. Voulez-vous me regarder en face et me dire non?
Moi, je ne ferai jamais.
Voulez-vous me regarder en face?
Non, non, non,
venez donc souper avec moi.
Non, 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 je ne veux pas.
Pourquoi? Un tout petit peu de champagne, tous les deux, très vite.
Non, 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 non.
Écoutez, si j'ai juré de me taire, je peux du moins vous montrer mon portrait. Lisez mon nom sous ce portrait. Lisez, n'ayez pas peur. Lisez. Venez souper avec moi. Voulez-vous venir ici tout de suite? Voulez-vous venir ici? Oh, vous allez venir. Dites, vous allez venir. Hein? Dites.
D'après la troisième soirée littéraire de la Comédie Française, l'ORTF vous a proposé « Si Sacha Guitry nous était compté » par Alain Decaux, entouré par ordre d'entrée en scène, de Jacques Ezer, Alain Feydeau, Jacques Toja, Michel Etcheverry, Claude Winter, Jean Pia, Michel Aumont. Avec les voix de Sacha Guitry et Yvonne Printemps. Assistante de réalisation, Gilberte Samba.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 juin 1969. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.